Actu SF, les podcasts.
On va parler du nouveau roman de Steven Erikson, qui est un auteur canadien, qui a notamment publié la série pour laquelle il est le plus connu, Le Livre des Martyrs, actuellement en retraduction et en republication aux éditions Léa. Le tome 2 est d'ailleurs en exclusivité à la librairie et sinon sortira le 16 novembre. Mais le livre qui nous intéresse est un livre de science-fiction, un livre de premier contact. Il s'appelle Rejoice, A Knife in the Human Heart. Je vais attendre le traducteur pour que on puisse être sûr que je ne dise pas de bêtises en le présentant. Et comme ça, you have translation?
Yeah, everything's fine.
Ok, so, on peut commencer. Donc dans Rejoice, A Knife in the Human Heart, l'humanité se rend compte qu'une activité extraterrestre commence à opérer dans le système solaire. Et on va avoir cette implication dans la vie humaine en elle-même, sans jamais vraiment les voir. On a un roman qui se divise en deux parts très différentes. D'un côté, on va avoir un roman choral qui va voir l'implication des humains par rapport aux interventions extraterrestres qui interviennent pour une raison très précise que je vais aborder juste après. Et de l'autre, on va avoir un huis clos entre une intelligence artificielle et une autrice de science-fiction. Et du coup, l'objectif étant de faire d'elle la porte-parole du projet de ces aliens. Donc le but est clairement, donc les premières interventions qu'ils vont faire vont être de créer des zones sauvages dans lesquelles l'humain ne peut pas pénétrer, créer et nous empêcher d'être violents. Du coup, on est clairement sur un objectif de préserver la vie, l'environnement de la Terre des destructions humaines. Et cela est montré assez ardemment. Et du coup, ma première question pour rentrer directement là-dedans, à plusieurs reprises, vous dites dans ce livre que d'un point de vue des aliens, l'humanité est déjà perdue. Mais du coup, pensez-vous que notre seul espoir est une intervention extérieure? Pensez-vous que vous-même, pensez-vous que l'humanité est déjà perdue?
Well, that's a hard question to answer. In my more pessimistic moments, sure, I probably think in terms of climate change, in terms of the political situation, we are being driven by all of us, by external forces that we cannot resist. And that is the global system surrounding us right now. But in my more optimistic moments, I think historically we move through cycles, and we may be in a cycle right now, which is certainly one about, I guess, a growing sense of stress and anxiety that pushes people towards authoritarianism in some form or another. So, like I say, sometimes I'm pessimistic, sometimes I'm optimistic.
Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé, après de nombreux romans de fantasy, en plus du Livre des Martyrs, à vous lancer dans un livre de premier contact? Était-ce l'objectif de parler du réchauffement climatique, de la destruction de l'environnement, ou était-ce d'abord une envie de parler de premier contact, et après est venue la nécessité par le fait que c'était un roman dans un contexte contemporain de parler de ces problématiques?
Well, I don't know. If you've read Malazan, Book of the Fallen, I talk about environmental issues all the time. And also there's a lot of political undercurrents and themes that are being explored in the fantasy setting, which is, in fantasy, you can take a metaphor and make it real. And I did that throughout my series. But for the first Contact novel, I'm primarily a reader of science fiction. I don't read much fantasy. And I've been fascinated by the notion of first contact for a long time. And so it was kind of a hobby of mine for the last 10 or 15 years to be researching, thinking at some point I would write a first contact novel. But I wanted to approach it a little bit differently because many first contact novels, they take almost as an assumption that the ET that arrives will acknowledge our political and economic systems or actually simply be larger versions of the same. And it struck me that that was probably unrealistic and presumptuous on our part. So I wanted an ET contact that actually ignores our politicians and ignores our scientists and ignores our astronauts and our military. And so basically approaching us from a different value system. And it struck me that in space, my suspicion is that resources are not scarce, that they're plentiful once you have the technology to access them. So you have a post-scarcity civilization coming to Earth. And because of that, it simply rejects our entire economic system and the hierarchy and the hegemony that is created by that system. And accordingly, their only value system that is of any worth is that of art, because art is exclusive to each species, each sentient species. And that is why they select sort of the one profession out there that is the best suited for first contact and initiating contact would be a science fiction author. And I consider myself a fantasy author, so I'm not sort of Mary Suing this thing. It's not like that at all. The character I chose is kind of a combination of Ursula Le Guin and Margaret Atwood. So she's more of a social science fiction author, but she is the point of contact.
À un moment, je voulais y venir à un moment sur le personnage du coup de Samantha. Vous parlez du fait que si Anne Banks était encore en vie, ce serait probablement lui qui y serait allé. Est-ce que vous avez pensé à un moment mettre vraiment un ou une auteure qui existe vraiment actuellement? Est-ce que un vrai nom vous aurait botté? Est-ce que c'était quelque chose qui était attirant? Et si oui, qui?
Well, that would be presumptuous on my part. But what I did, I mean, there is a real author in the novel. And my original idea was actually to contact a half dozen science fiction authors and to have each of them, to pose a question to each of them, which was that, what would you do under these circumstances? What would you say? But then it started to seem fairly daunting because I know a few science fiction authors. I don't know a lot of them. And the ones I wanted to contact, I hadn't met, like Anne Leckie or Becky Chambers or David Brin. But I am close friends with Robert J. Sawyer, so I contacted him, and he was very happy to participate in the novel, which was kind of cool. Maybe in the second one, I'll get more authors in there.
Là, on en parlait tout à l'heure, mais une question assez importante est le titre de ce livre, Rejoice, A Knife in the Human Heart. Comment
A Knife to the Heart.
A Knife to the Heart. Yeah. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes venu là? Et puis après, on essaiera de voir avec
sure.
avec Patrick où on est la traduction de ce
yep.
titre.
Okay. Right. Okay. So, rejoice, comma, a knife to the heart. There are two sides to this. One is ET is intervening on behalf of the biome, on behalf of the planet. We are kind of included in that almost reluctantly as a species. And that intervention actually stops us in our tracks because we are we're within a system right now that seems to believe our resources are infinite. So we are expanding with that belief of infinite resources within a finite system. And of course, that's what's so destructive about it. But one of the things ET does is it lays down a blanket presence with agency, which means when it stops violence, it stops all violence. And the only violence permitted within the story is violence upon oneself. So suicides are possible. So in that sense, you have the rejoice in the sense of you've stopped violence, you've saved people, you have created among 51% of the Earth population of humans, among women, the notion of actually living without fear. So that seemed to me something to rejoice. Now, the knife to the heart is a lot of our economic system, our philosophy that underlies it, raises things like competition and aggression as almost virtues in the capitalist system. And if those things are blunted, if those are stopped, a lot of the infrastructure of our economics and our nations are going to collapse. And so if you can't guard borders, then people will move. If technology arrives that gives you free energy, entire sections of our economy are going to collapse. So you have the knife to the heart in the sense that we are stopped at in our worst. Our worst characteristics are no longer available to us. And I have to admit, my take on capitalism is it's basically a reward system for our worst virtues. And they're not virtues, they're vices.
Et toi, Patrick, du coup, comment souhaites-tu le traduire pour le moment? Où est-ce qu'on en est?
J'ai essayé différents noms. J'avais une liste que j'ai oublié d'apporter, parce qu'il y a vraiment toute une liste de noms que j'ai trouvé pour le titre, pour Rejoice. Et moi, je sentais dans Rejoice... Je sentais ça comme un terme un peu biblique, ça me rappelait certains hymnes religieux. Donc, l'une de mes premières idées, c'était de l'appeler Alléluia. Mais ça, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. Et je suppose que si je l'appelais Hosanna, ce serait la même chose. Voilà, alors après, je peux vous donner quelques noms que j'avais trouvés comme ça. Excusez-moi pour ma voix enrouée, mais je suis malade, tout comme Steven d'ailleurs. Nous avons tous les deux un gros rhume, comme quoi il y a parfois un mimétisme entre l'auteur et le traducteur. L'auteur est malade et le traducteur aussi. Bref, pour en revenir au titre, donc Alléluia, etc., j'avais pensé après à des trucs un peu plus farfelus, genre il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, quoi, Charles Trenet. Quoi d'autre encore? Oh oui, bon, non, ça, j'ai passé très vite. Qu'est-ce que j'avais encore? Je t'en ai parlé pourtant, mais je me souviens plus. Enfin, tout ce qui tournait autour des réjouissances, la liesse, voilà, l'éboudissement, enfin, tout ce que vous voulez. Et bon, pour l'instant, moi, mon préféré, c'est Alléluia pour l'instant. Nous allons voir après avec la maison d'édition si le titre tiendra. Ensuite, le sous-titre, A Knife to the Heart, bon, un coup de couteau dans le cœur, c'est... Alors, bon, j'ai trouvé, je ne sais pas si ça va passer, une citation de Corneille qui se trouve dans le site, c'est « percer jusqu'au fond du cœur ». Ensuite, c'est d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, etc. Alors, c'est un peu littéraire. J'en suis là pour l'instant. Voilà. J'ai répondu à ta question.
Tout à fait. Et du coup, Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez?
I don't mind that. I don't mind pierce to the heart is actually that's fairly accurate, I think, thematically. I'm a little concerned at the hallelujah. Is that I'm coming from an anthropological point of view, but a linguistic point of view, is that primarily a Christian terminology, or was it used in the Old Testament? Does anybody
it's
know?
It's Hebrew. It's loué Yahvé. It means louer.
It means praise God,
yeah.
Right?
Yeah.
Praise Yahweh. Okay, so it is Semitic. It is Jewish. Okay, okay. I have no problem with that actually. Okay. So if it crosses right. More than one religious boundary, that's great. Mm-hmm. Mm-hmm. okay, I'm probably going to embarrass myself here in terms of my language understanding, but what about salut?
Salut?
Yeah. Mm. If it's that bad, just say so. I don't mind. But, I mean, it's kind of, you're right, in the sense it is a, it's like a loud pronouncement. As you mentioned, that sort of hallelujah, but of course, even hallelujah it's got an undercurrent of potentially. It could almost be sardonic, couldn't it? So there's two edges to it. Yeah.
J'avais pensé aussi à parce que hallelujah c'est la bonne nouvelle, donc bonne nouvelle, good news.
Yeah, that works.
That works too.
Yeah, yeah. You know, I think you're fine on that. Yeah. It sounds like a good title.
Sur le sous-titre, il y a aussi tout, dans ma lecture, j'y voyais aussi le fait que beaucoup des protagonistes de ce roman, puisque en fait on a une division en deux parties, comme je le disais plus tôt, un roman choral avec de nombreux personnages qui vont voir le monde changer en fonction des interventions des extraterrestres et ce huis clos de Samantha, cette autrice de science-fiction avec une intelligence artificielle. Et du coup, dans cette myriade de personnages, beaucoup refusent au final de voir ça comme un don, comme une chance, mais ils voient réellement une malédiction et ce côté où leur libre arbitre serait contraint et donc ils ne voient ça que comme une agression. Et je pensais que ce sous-titre se dirigeait aussi par là.
It does, yeah, yeah, absolutely. The knife to the heart is, we have notions of what it is to be human, the human condition, and a lot of what we carry forward in those notions are assumptions. We think of ourselves as a predatory species. We think of ourselves as a species that produces societies that require a hierarchy of power, which means some give up power. So the idea of free will, I find a very dubious one to begin with. I think it's nice as an ideal, but I don't think many of us out here feel that we have complete free will. And so in that sense, it's not as much of an issue for me in terms of challenging that. So, yeah, many characters end up blunted in what they are normally doing and what they seek to achieve. And I wanted to sort of play that out with as many characters as possible.
C'est dans l'ensemble de ce roman, on aborde de nombreuses questions assez complexes et notamment celle de l'intervention des aliens. Se pose la question de l'extermination, tout simplement, de l'humanité pour la vie de l'ensemble du biotope. Est-ce que j'ai beaucoup aimé comment vous résolvez ça pour qu'il y ait toujours une humanité dans votre roman. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
How did I keep them? Well, it's kind of one last chance, basically. And I think, since I've already mentioned the second novel, there is a second novel coming, following up on this one, where I'm going to explore what happens once we are able to leave the planet. So, yeah, it was basically an assessment made by the three alien species that are intervening. And they call it an intervention, they don't call it contact. Where even if they had decided to initiate the purging of humanity on behalf of the rest of the biome, the rest of the world, Earth is a little bit past middle-aged. And so the notion of potentially another sentient species arising actually is a low percentage. And so for that reason, they decide to give us sort of one more chance. But basically, as stewards of the Earth, we get fired.
Était-ce une, une nécessité ou est-ce que pour ce roman, est-ce que vous avez pensé à le finir avec une à un moment avec la possibilité de cette extermination ou c'était de base le projet de l'humanité de rester et d'essayer de s'améliorer par rapport à l'intervention alien.
That would be a grim novel, wouldn't it? I mean, to sort of drive everyone to extinction, just saying, okay, even when we prevent violence, there's not enough here to save. No, I would find that very depressing. No, I think at core, I am optimistic. So I'm not into nihilism. I'm not into grim dark. I'm not into any of these things. I'd rather see the best in humanity rather than and explore the best in humanity. And one of the ways of doing that in this novel was simply to prevent the worst in humanity and then see what we do with that.
Au milieu de l'ensemble de ces concepts et de ces grandes discussions, de ces passages extrêmement, même parfois durs pour l'humanité, il y a aussi beaucoup d'humour dans votre livre. Comment vous gérez ces touches d'humour au sein même de ce roman? Comment vous les avez pensées? Quels étaient les objectifs? Est-ce que vous les laissiez venir pour après? Et après essayer de voir si elles étaient bien réparties. Est-ce que c'était un objectif d'un moment relâcher un petit peu la pression?
Yeah, I think humor is very good at alleviating stress and pressure within a story. At the same time, when I started writing this novel, I was creating characters that were kind of stand-in for characters, people in our world, and it was before the U.S. election, so. When I came up with the U.S. president, I kind of figured he was going to end up there, and so the president is a version of the present president, and that allowed for a lot of humor. Obviously, I know it's kind of tragic humor right now in the real world, but in the novel it can be just plain humorous, and the idea of people who are pursuing power and have reached positions of power. Within politics or business, suddenly finding themselves and all the abilities and talents they've exploited in reaching that power, suddenly powerless. It does sort of, I'm hoping, it sheds a new light on that kind of ambition, which is usually at the expense of fellow human beings. And so, yes, there is a bit of comedy. There is... I guess a bit of satire here and there in some of the conversations that. But the novel itself is a thought experiment. It's basically asking what if and then if only. So.
Et Patrick, toi qui as traduit Pratchett, comment gérer dans la traduction les affres notamment de ce président des États-Unis?
À vrai dire. En tant que traducteur, je ne me suis jamais posé de questions. Lorsque je suis dans le bouquin, je suis dans le bouquin. Si un personnage est drôle, je ne peux pas m'empêcher de le rendre drôle en français. Enfin, j'essaye en tout cas. Je fais de mon mieux. Mais c'est vrai qu'avec le président des États-Unis, c'était relativement facile. Hein. c'était même très agréable. J'adore ça. Surtout les grossièretés, c'est ce que je préfère traduire en général. Mais il y a également d'autres personnages. C'est vrai que ce sont les hommes de pouvoir ou les femmes de pouvoir qui, d'un coup, n'ont plus ce pouvoir et qui, par là même, deviennent, par certains côtés, ridicules quoi, dans leurs efforts pour essayer de rattraper le coup. Le président des États-Unis, on voit bien de qui il s'agit. Mais il y a également deux frères milliardaires là, qui sont sans doute les frères Koch Brothers, ouais, c'est ça. Et puis, il y a Il y en a un, c'est peut-être Rupert Murdoch qui... Murdoch, too.
Boy, were they that obvious.
Yeah. Oui. Et c'est vrai que ces personnages, à la traduction, sont jouissifs, je dirais. Parce qu'ils perdent de leur superbe, en quelque sorte. Et ça, on les voit se débattre en vain, quoi. Non, c'est bien. Mais pour traduire ça, comme je disais... Je m'immerge dedans, donc je ne réfléchis pas, ça vient comme ça, quoi.
Et à l'écriture, voir ces chantres du capitalisme complètement démunis par rapport à l'arrivée de solutions gratuites et non exploitables par le capital. Est-ce que c'est jouissif aussi? Est-ce que c'était important à écrire?
It is great fun, absolutely. You know, the amount of research I did online and books, like I say, it's been going on for many years. And I come at it from an anthropological and archaeological point of view. And I have issues within the field of archaeology in terms of how the paradigm prevents any kind of anomalous artifacts or discoveries from actually being integrated into a new revisioning of human history. So I have problems with that side of things. But a lot of the research I was doing related to ufology and the whole debate regarding the sightings of UFOs and conspiracies and Area 51 and all the rest. And it struck me early on that if there is any kind of evidence or truth to what a lot of people are pointing out, then it is actually a necessity to keep it secret and to keep it from full disclosure. Because once that happens, the authority that is assumed within our system, one based upon secrecy, and secrecy feeding...
We good?
Yeah. Okay, secrecy feeding power. I think I was getting feedback, so it was... Okay. One based on that cannot continue in full disclosure and full acknowledgement of what might be happening. And so it has got to be a desperate effort to keep things under wraps if there is stuff going on, because everything will fall apart. I mean, even in the novel, as soon as you've removed the option of violence, that removes the option of coercion, which means people don't have to pay taxes. And so everything starts falling apart at that point. And if E.T. were to arrive tomorrow, to see... You see films where they arrive and they try to conquer the planet, whatever. All they would have to do is land. They wouldn't have to step out of their ship. We would do the rest, because we would take ourselves down, I think. Maybe not in a bad way, but it would break down absolutely everything.
Et surtout, pourquoi il le ferait? Comme vous l'expliquez assez bien, la multiplicité de ressources dans l'univers pour une société qui, une civilisation suffisamment avancée pour traverser les étoiles, de voyager de système solaire en système solaire. Bah, n'a aucun intérêt à s'attaquer à une autre espèce. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas dans cette paranoïa des extraterrestres doivent nous dominer dans toutes ces histoires de conspiration, est-ce qu'il n'y a pas finalement un espèce d'égocentrisme, d'importance notre existence, et que c'est ça validerait notre propre importance face à une absurdité qu'est l'existence, en fait.
Yeah, it is. But interestingly, if you depending on what you're reading, I've just been reading a book that actually is specific to military encounters with UFOs, and what's amazing about it is, starting, I think, in the Second World War, maybe even the First, but all the incidents that are recorded, humans shoot first. And it really sucks. It's really bad news.
Dans Signe, le film Signe, il y a toute cette interprétation où on suit une famille paysanne, dans l'Amérique profonde, et du coup on entend à la radio que les aliens ont débarqué, qu'ils ont fait sauter des villes, qu'il y a une agression, etc. À aucun moment on ne voit l'alien dans un moment d'agression. Et effectivement, à chaque fois, c'est peu à peu les humains cette famille qui se monte et qui, au final, va aller jusqu'à battre avec une batte de baseball un alien qui, à aucun moment, n'a répondu. Et du coup, même à notre visionnage, un premier visionnage nous dira « Oui, c'était une histoire d'une famille qui se fait attaquer par des aliens. » Alors qu'à aucun moment, il n'y a eu... En fait, leur simple présence sur Terre est une agression. Et au final, il n'y a même pas besoin d'enlever le libre-arbitre aux humains pour qu'ils sentent que ce soit une agression. Il y a juste besoin d'être là. Je trouvais ça assez... ça me faisait penser à ça, ce que vous dites. Derrière, toutes les problématiques sociales du coup qui vont être élaborées. D'un côté, dans le livre des Malaséens, c'est extrêmement présent. On en parlait tout à l'heure. Il y a déjà cette volonté de regarder ce qu'une société de fantasy pourrait être de façon anthropologique, pour voir par exemple qu'il n'y a pas besoin dans une société où la magie est accessible à la fois aux hommes et aux femmes, d'une société patriarcale. Et du coup, toute cette vision anthropologique...
You can't have it. Yeah. You can't have a patriarchal. If magic is, and this is the whole Malazan thing that myself and Ian Usselmont basically were very conscious of creating, was if magic is available to everyone, and if it's efficacious... then you cannot have gender-based hierarchy of power. It cannot exist. So the Malazan world is a world without sexism, and there isn't a single character in that series who even thinks in those terms. And that changes a lot. It changes everything.
Et du coup, dans un roman contemporain, donc l'ensemble de ces problématiques ressurgissent forcément davantage. C'était une volonté de les aborder dans Henry Joyce, de montrer l'implication, par exemple, de la fin de ces violences, ce que ça va permettre de libérer aussi, et non pas juste de nous priver.
I don't know. I mean, that's the thing. I'm not really there to sort of set forth. The right answers. It's a thought experiment, so I'm basically searching for the right questions, and so I ask those questions, and then the characters have to struggle, and each to their own in terms of coming through with some kind of understanding of what is possible and what is no longer possible, and some characters manage it far better than others. So it's. It's just, I just raised the question. Yeah.
J'avais une petite question aussi pour Patrick. Quelles ont été les, pour le moment, de là où t'en es, les plus grandes difficultés et pour traduire Rejoice.
Alors, bon, il faut déjà que je dise que je n'ai pas traduit tout le roman à ce jour. J'ai fait un peu plus de la moitié. Les grosses difficultés pour moi, ce sont tous les... Parce que c'est un roman qui aborde toutes sortes de thèmes, quoi, psychologiques, philosophiques, religieux, économiques, géopolitiques, et j'en passe sûrement. Et effectivement, on ne peut pas s'y connaître à fond dans tous ces domaines. Et c'est ce qui m'a posé le plus de difficultés. Dans le domaine de la physique, par exemple, je dois bien avouer que je suis à peu près nul. Mais heureusement, grâce à Internet, j'arrive à m'en sortir, mais j'y passe quand même beaucoup de temps. C'est ce qui m'a posé le plus de problèmes, moi, toutes ces questions très précises, géopolitiques, encore une fois, philosophiques, religieuses également.
Et du coup, pour les écrire, toutes ces parties-là, comment vous procédez, est-ce que vous faites des recherches académiques, vous parliez tout à l'heure de recherches sur toutes les conspirations, etc. Comment vous travaillez pour créer un roman de premier contact, et quelles sont les grandes différences avec une série de 10 volumes de fantasy, du coup?
Huge difference. I don't know how to explain it. Fantasy is hard. It is really hard because you're creating an entire, you're world building. So if I were to write a story and mention and set it, say, just outside Paris, well, most of us, everybody here, one would think, but worldwide would have a sense of, okay, this is Paris, this is outside Paris, so you're in France, and they would have a sense of what that setting is like. In fantasy, I'm going to describe a city called Darujistan. Nobody, no reader, has any idea about that city. So you actually, in fantasy, you have to fill in the gaps. And then you have to choose the details that actually create a sense of, not denotation, but connotation. So it connotes things without having to explain it all. Otherwise, you're writing an encyclopedia about the city of Darujistan, which would be really boring. So you have to do all these things and do it subtly and just sort of at the same time advance your story, tell a good story, create interesting characters, and so on and so forth. In a mimetic novel, a novel set here, it's so easy. It is so easy. So you can actually, at least for me, I could actually address the specific philosophical elements and scientific, but mostly philosophical elements underlying a scenario which I set up. And then I just watch the dominoes tumble from there. And language-wise, I don't have to worry nearly as much. Stylistically, I don't have to worry as much. I can fall into the voices of each character. They will feel fairly naturalistic for those characters. So it was a delight to read or to write, an absolute delight. And it reminded me of, because I started as a short story writer of contemporary fiction, so it reminded me of when I started, which was a lot of fun to go full circle in that respect.
Et quant à traduire de la SF ou de la fantasy, du coup, toi, tes préférences, Patrick?
Je n'en ai pas, à vrai dire. J'aime traduire les deux. Oui. disons que la hard science, pour moi, c'est plus difficile. Parce qu'encore une fois, en physique, je ne suis pas très doué. Mais cela dit, bon, j'ai des amis qui le sont. Je peux toujours me renseigner auprès de ces gens-là. Non, j'aime traduire les deux. Hein. Pas de différence pour moi. À condition que l'auteur soit bon, évidemment.
Vous êtes traduit dans de nombreuses langues. J'ai perdu le nombre. Quelle est votre approche vers vos traductions? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez attentivement? Est-ce que c'est quelque chose que vous laissez? Comment quelle relation vous avez avec vos traductions?
I think it, for me, it depends on the translator. If the translator wants my input, I'm happy to give it. But generally, a translator knows their own language very, very well. To me, it would be one of the most difficult things I can imagine would be translating someone else's fiction. It's right now, I think I'm working quite closely with the Polish translator, because that language, my understanding is, it doesn't have, each word is very, very specific in terms of its meaning. And of course, in English, you've got connotation as opposed, in addition to denotation. So it's, he's giving me some very precise questions for elaborating and explaining some of the things I'm saying.
J'avais une question tout à l'heure sur le président et de façon générale sur ce qui se passait. Et du coup, après, on a dérivé. Je me posais réellement la question de, était-ce important au final de montrer les gens au pouvoir, en fait? Est-ce que c'était une volonté réelle? Quelle était la volonté de mettre dans ce roman ces gens qui étaient au pouvoir, plutôt que de voir, par exemple, à travers les yeux de n'importe qui, comme on peut le voir dans de nombreux passages du roman, dans de nombreux narrateurs, comme il y a de nombreux narrateurs différents. Pourquoi avoir choisi ces quelques personnes qui avaient du pouvoir, pourquoi les avoir mis ici plutôt que de mettre uniquement des gens qui ne faisaient que subir et en même temps rebondir par rapport à ça.
Well, we have a few of those, but the thing with and it is challenging to actually take on characters in power, primarily because it's almost inevitable that when I explore a character, regardless of whatever background I give them, I end up being very sympathetic towards them. So I found myself in sympathy towards the President of the United States and in sympathy towards the President of Russia and China, the Premier of China. And so I kind of like doing that because it's too easy to simply dismiss and to be judgmental. And I'm there looking for the humanity in everyone. And so to pick somebody like that is much more challenging than to pick the every person. Because I think most of us are feeling a fairly pervasive sense of helplessness anyways. So I've covered some of those characters in the book. But I also wanted to really explore the idea of what happens to somebody who's used to being in power and takes it for granted, suddenly finding themselves no more important than anyone else. And E.T. is not talking to them, which is even more of a challenge to their self-image than anything else.
Et de façon plus large maintenant, est-ce que le fait de d'écrire de la science-fiction à notre époque, de façon contemporaine, était une réelle volonté par rapport à ce qui se passe actuellement. Est-ce que c'était une volonté de cri d'alarme malgré le fait que la direction est plutôt à l'opposé des objectifs de ce roman en ce moment? On voit ce qui s'est passé au Brésil récemment, les élections différentes. Du coup, est-ce que c'est une façon aussi d'espérer un changement?
Well, I think everything one writes, you write in dialogue with reality, regardless of whether it's fantasy or science fiction or any other novel, you're engaging with that reality. I suppose there are elements of that, but I personally, I'm very ambivalent regarding the power of fiction. Sometimes I think it has power. Sometimes, more often than not, I think it's I don't know how you will interpret this, but pissing into the wind. So I'm just sort of I waver back and forth between those two. But again, a part of me thinks it would be very presumptuous to for any author to sort of wave a banner. I'm more interested just in exploring the questions, and even if it, you know, I can sort of trigger one reader among everyone out there to rethink maybe some of their assumptions. That's good enough for me.
Mais c'est pourtant l'art qui est aux yeux de ces aliens ce qui fait la particularité de chaque espèce consciente. Est-ce qu'on peut extrapoler au fait que comme c'est la seule chose qui nous rend différents, qui nous particularise, est-ce que c'est pas aussi la seule chose avec laquelle on peut réellement exprimer des espoirs de changement?
Absolutely, absolutely. It's art is our almost instinctive exploration of the human condition, and it's kind of sad that it is to a large extent undervalued, but at the same time, childcare is undervalued. So you know, we're in a weird system. A weird value system. It seems to be completely flipped over from what it should be. And so that's why this novel really pushes the other side of that and suggests that our present value system is too screwed up to actually save. And maybe we need to look in a different direction. So E.T. then basically enforces that reevaluation on things. But again, it's an exploration. I think art can be potentially powerful. It certainly seems to be historically extremely powerful in nations undergoing revolution or other catastrophic change. And that of course is when they line up the artists and shoot them. So they are recognized as potentially dangerous. These days here in the West, there is such a flood of information that we're almost all being drowned in it. And if you wanted to keep people distracted, apathetic, you will entertain them to death, and that's kind of what's happening. So.
Et du coup, à votre avis, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Quels sont les auteurs qui, à votre avis, sont les bons représentants de cette vision de cet art qui pourrait nous permettre d'espérer de changer?
I would actually look to I read three very, very good science fiction books lately. One is Kim Stanley Robinson's, I think it's New York 2130, I never get the year right. It's a brilliant love letter to New York. Then I read Becky Chambers, and she's a phenomenal kind of social science fiction writer, very much into the human condition. And thirdly is a novel by a man named Robin Reed. I think it's a man. Called After On, and it's all about sort of the rise of Silicon Valley and then projecting in slightly into the future where an emergent artificial intelligence accidentally emerges from the internet. And those are, they're all kind of warning novels in their own way. But at the same time, they're presenting a future that can be celebrated regardless of the environmental impacts or the social impacts. They're great books.
I agree.
You read them all?
Not the last one.
After All? Yeah, it's a bit obscure, but it's a fantastic book.
Becky Chambers is absolutely
fantastic. Yeah, isn't she?
She was there last year.
Was she?
Yeah. Cool. Yeah, it was wonderful.
Yeah.
Est-ce que la salle a quelques questions? Juste là-bas. Hop, est-ce qu'il y a quelqu'un avec un micro ou bon, je vais y aller moi-même. Hein. Hop.
Could you share your reflection on the difference between the morality of your aliens who choose to intervene and the prime directive or the ideas of non-interference and how you engage with that as a Canadian? Who lives in a colonized country?
I didn't get all of that.
Canadian.
Hang on. What I got was quite issues on the prime directive.
Yeah, so the idea of non-intervention.
Right.
And the morality of the choice that your aliens make.
Yep.
And how you engage with that as a colonizer, myself.
Yep.
I'm a New Zealander and you're a European Canadian, I assume.
Yep. Wow, that's a good question. I grew up as a Trekker, okay? So here's my confession. I'm stepping out, right? Star Trek fan, original series. But even early on, I really had issues with their prime directive. And for those who don't know, the prime directive is this notion of an advanced civilization making contact with another species on a planet. But avoiding actually engaging or intervening in the ongoing situation with that species. So, in other words, you would sit back even as that place tears itself apart. And that always struck me as monstrous. And but I understood the historical context for it because at the time, we're talking the 60s when it sort of first became part of the Star Trek canon, there was a reevaluation of colonialism, a long overdue reevaluation of it. And so that was kind of driving the idea, I think, underscoring the Prime Directive, which was historically humans, when they make contact with cultures that have that are at a or are employing a different level of technology, some would call it maybe an inferior or at least not as technologically advanced. It's invariably disastrous for the culture that's been contacted. And so I understand the actual historical context for that. The primary difference I see for, even in Star Trek, for making contact with another planet is, in the Star Trek world, the Federation is not there to conquer, okay? It's not there to claim land. So these were the driving forces for colonialism were primarily economic. So if you take that away, then you don't have sort of the underside of colonialism, because you're not coming there to claim land, you're not coming there to claim the planet, to do anything of the sort. But what you can do is, if you have the technology, which in this novel E.T. has, you can intervene in a peaceable fashion so as not to be the indifferent witnesses to genocide or global destruction. Does that answer your question? Kind of, yeah.
I'm just reflecting on the choices that we make in our modern era, like to intervene or not in Syria, or whether we should intervene in a country which practices genital mutilation, whether circumcision of men and women should be banned in the West, outlawing a religion perhaps. And yeah, how ambiguous the choice of your aliens is. It's not an easy choice to intervene.
No, you're right. And you're moving into the area of cultural relativism, and that's... That's a scary place to start exploring, because it presumes that any culture that is intervening on another culture is coming from a position of superiority, and that's fairly hypocritical. We don't even know if our present Western system actually is useful to survival or not, because we haven't been here long enough within this system to know one way or the other.
Je suis désolé, mais on va devoir s'arrêter là sur cette discussion passionnante. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi ce débat. Et vous pourrez retrouver Stephen Erickson en dédicace juste après à la librairie. Très bonne journée.